merci à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent via la toile. Merci. Alors, ce matin, j'aimerais vous inviter à tourner dans la première lettre de Jean, au chapitre 2, versets 3 à 11. L'apôtre Jean a écrit, évidemment, un évangile, mais a écrit également trois lettres, et puis l'Apocalypse. Et là, on va voir ensemble, dans la première lettre, un thème. Et le thème, c'est « Debout dans une époque éprouvante ». Le contexte de cette lettre-là, ça nous appelle à se tenir debout et à être un chrétien solide qui ne trébuche pas, mais de vivre ça aujourd'hui, c'est de le vivre dans une époque qui est éprouvante. C'est un défi aujourd'hui d'être un chrétien à cette époque, parce que, savez-vous quoi, mesdames et messieurs, nos repères sont en train de s'éclater socialement. Ce qu'on disait bon et vrai il y a 30, 40, 50 ans, aujourd'hui, ce n'est plus une norme. Avant, même si l'ensemble de la société ne marchait pas totalement ou directement dans les voies de Dieu, il y avait quand même certains repères judéo-chrétiens qui pouvaient nous éclairer ou qui pouvaient être une borne sociale. Mais aujourd'hui, c'est tout éclaté. Donc, ça devient encore plus difficile de se tenir debout dans cette époque. Même Paul va le dire dans 2 Timothée 3:1, et vous lirez la suite des versets, les versets qui suivent. Il dit à son disciple Timothée, « Sache que dans les derniers jours, il va y avoir des temps difficiles. » Et quand on lit les caractéristiques qui suivent, c'est vraiment notre époque qui est en train de décrire. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que les médias jouent un rôle là-dedans. Il y a un rôle en termes de propagande, d'information, un rôle qui est en train, les médias sont en train de nous dire, en tant que société, qu'est-ce qui est la norme à suivre? Qu'est-ce qui est aujourd'hui bien? Qu'est-ce qui est, entre guillemets, évolué? Évidemment, ça fait partie des choses sérieuses. Mais il y a aussi dans les médias des choses qui sont ludiques, si on veut, qui sont comiques. Et dans le contexte de se tenir debout, j'avais pensé vous présenter un vidéo qui nous montre des gens qui glissent, qui tombent. Pourquoi? Parce que d'un côté, ça va nous faire rire, mais d'un autre côté, ça peut nous attrister de voir ce qui se passe. Je vous laisse visionner, puis on en reparle après. Et on ne met pas le son parce qu'il y a des gros mots qui se disent là, suite à des chutes, donc... Je voulais vous épargner. C'est renversant. Ça prend de la colonne pour faire ça. Merci. Vous savez, c'est ça, il y a les deux réactions, je l'ai entendu dans la salle. Il y a le rire, mais il y a aussi, on retient notre souffle, on est attristé, on se met dans la peau de l'autre, puis on dit, ah boy, c'est dommage. Et puis, spécialement celui qui est tombé en bas de la falaise. Et comment notre adversaire, lui, il rit quand on trébuche, justement. Mais comment nous, ça nous attriste toujours de voir un frère ou une sœur qui n'a pas pu résister, qui n'a pas pu se tenir debout. D'un côté, il y a des rires, puis d'un autre côté, il y a une tristesse. Et l'apôtre Paul, lui qui est en train de former son disciple Timothée, il est en train de préparer notre génération à se tenir debout dans ces temps difficiles. C'est un défi pour nous de se tenir debout dans cette époque qui est éprouvante. Aujourd'hui, on est en train de tout faire éclater, même notre propre identité. Quand dans 11 États américains, il y a une lutte entre ces États-là et le fédéral, parce qu'il y a tout un jeu de subventions qui doit être donné à ces États-là, mais parce que ils interdisent à des hommes d'entrer dans les toilettes des femmes, parce que ces hommes-là, même s'ils ont des organes hommes, se considèrent femmes. On est en train d'éclater ce qui est tout à fait naturel. Un homme, quand il naît un homme avec des organes d'homme, il est un homme. Mais si dans sa tête, il se pense une femme, il réclame le droit d'aller dans les toilettes des femmes. Ça, c'est un débat de notre société. Ça s'en vient dans notre pays. On est en train de tout déconstruire, ce qui était à la base normal, ce qui faisait partie du gros bon sens. Ce que Paul dit à Timothée, c'est qu'à la fin des temps, les repères qui transcendaient les générations vont s'éclater. Les gens ne vivront plus de la même façon. Les comportements vont changer radicalement. Puis c'est fréquent d'entendre, oui, mais dans votre temps, c'était différent. Aujourd'hui, c'est autre chose. Et c'est pour ça que c'est important d'être fortifié par Dieu, par sa parole et par son amour. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on va voir ensemble. On va voir qu'un disciple qui est solide, un chrétien qui est solide, il connaît intimement Dieu, il garde sa parole et il aime son frère. Alors, je vous invite à vous recueillir pour qu'on puisse prendre un temps pour s'arrêter et de mettre toutes nos préoccupations de côté pour que notre esprit, notre attention se concentre sur ce que Dieu veut nous donner comme instruction aujourd'hui. Recueillons-nous, s'il vous plaît. On prend ce temps d'arrêt devant toi, Père, parce que c'est facile à notre esprit de vagabonder, de penser au dîner, de penser à nos enfants, de se rappeler peut-être la chicane qu'il y a eu avant d'arriver ici. Mais Père, on veut que tu gardes nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ pour avoir des sujets à méditer cette semaine, à réfléchir, à faire le point, pour être encouragé, pour être fortifié, pour aller de l'avant, Seigneur. Parce que notre désir, c'est que tu sois glorifié au travers de nos vies. On te le demande, Père, dans le nom de Jésus, afin que ton esprit puisse nous instruire ce matin. Amen. Première lettre de Jean, chapitre 2, verset 3, et les suivants. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Je vous écris. Mais un commandement ancien, celui que vous avez reçu depuis le début, ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. Toutefois, C'est aussi un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se vérifie en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la vraie lumière brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère reste dans la lumière, et il n'y a en lui rien qui puisse le faire trébucher. En revanche, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Et l'élément clé sur lequel je vais attirer votre attention, c'est le verset 10. « Celui qui aime son frère reste ou séjourne dans la lumière, et il n'y a en lui rien qui puisse le faire trébucher. » C'est pour ça que l'appel d'aujourd'hui, c'est de se laisser fortifier par Dieu pour se tenir debout dans une époque éprouvante. Et ça, ça va être le résultat de connaître Dieu et d'aimer sa parole. On va aimer son frère, notre sœur dans l'Église, d'une manière pure, et ce sera le résultat de connaître intimement Dieu et d'aimer sa parole. Jean a écrit cette lettre parce que le ministère de ceux qui avaient été témoins de Jésus, de ses miracles et de sa résurrection, beaucoup d'entre eux étaient morts parce que Jean est vieux. Et donc, il y avait des gens plus vieux que lui qui ont été témoins de ses miracles et de la résurrection de Jésus. Et il y a de moins en moins de ces témoins qui sont vivants. Et il écrit une lettre parce que il y a des faux enseignants, et je pourrais dire des faux inspirés, qui se sont introduits dans les églises, puis qui ont commencé à enseigner toutes sortes de doctrines, une théologie qui n'était pas fondée sur la base solide. Et Jean fait des mises au point. Et il va mettre en garde les disciples en posant le fondement de la vie chrétienne. Puis dans le contexte de ce passage, si le disciple aime son frère, c'est parce qu'il connaît intimement Dieu et qu'il aime sa parole. On va regarder ça ensemble. Le premier point, comment reconnaît-on un chrétien solide en ce qu'il connaît Dieu? Et dans le grec, c'est une connaissance intime. Le mot est utilisé pour les relations entre un homme et une femme. Lorsqu'un homme et une femme ont ce type de relation-là, eh bien, il est possible que 9 mois plus tard, il y ait un enfant qui aboutisse. Et donc, c'est vraiment d'une question d'intimité. Ça parle d'une connaissance intime. Et c'est évident qu'après avoir parlé de communion avec Dieu au début de sa lettre, d'être syntonisé avec Dieu, d'être dans la lumière, Jean nous enseigne à le connaître. Et un bon test. Il y a des questions qu'on peut se poser pour savoir si on le connaît intimement. Par exemple, qu'est-ce que je peux dire de Dieu? Qu'est-ce que je connais de lui? Qu'est-ce que je peux raconter de Dieu aux gens de mon entourage? Qu'est-ce que Dieu m'a fait connaître de lui? Est-ce que je peux témoigner qu'il m'a fait connaître sa patience, qu'il m'a fait connaître sa bonté, qu'il m'a fait connaître sa compassion, sa miséricorde? Qu'est-ce que j'ai vécu avec lui qui est conforme avec sa parole? Est-ce qu'il y a des témoignages de l'intervention de Dieu? Je l'ai vu agir dans ma vie. Est-ce que je peux raconter ces choses? Est-ce que j'ai une expérience intime et personnelle qui s'est vécue entre lui et moi, que je peux partager? Vous savez, j'ai rencontré l'ex-premier ministre Stephen Harper à différentes reprises, puis je peux dire que je le connais puis qu'il me connaît. Je me souviens, on était à Laval à un moment donné, puis il y avait deux hommes, il y avait de l'air riche puis impressionnant qui étaient là. Mr. Harper, Mr. Harper. Fait qu'il s'en va le voir, puis là, il me voit du coin de l'œil, puis il se tourne, puis il dit, hey, Eric! Puis au lieu d'aller leur parler, il s'en vient me serrer la main, hey, qu'est-ce que tu fais ici? Puis, hey, puis il me jase. Là, les deux gars disent, c'est qui ce no-name-là? Mais même si on se connaît, je ne le connais pas intimement, M. Harper. Je ne sais pas c'est quoi son plat préféré, je ne sais pas c'est quoi sa couleur préférée. Ça doit être le bleu, j'imagine. Mais je ne le connais pas aussi intimement que sa femme et ses enfants. Mais un autre politicien que je connais un peu plus intimement, c'est Stockwell Day. Lui qui a été le président du Conseil du Trésor du Canada, il a été ministre du Commerce extérieur, je peux vous dire que c'est un passionné de hockey. On revenait du Saguenay, là, puis on traversait le parc des Laurentides, puis là, il dit, il faut arrêter quelque part, je veux savoir les résultats du match. Puis on a même arrêté à Sûreté du Québec pour voir s'il n'y avait pas une télévision, il voulait avoir, c'était un concours international, puis tout ça, c'était un fou de hockey. Puis je l'ai connu personnellement, on a ri ensemble, on a passé des moments. Et je peux dire que je le connais un peu plus personnellement. Mais qu'en est-il de Dieu? Est-ce que je le connais personnellement? Et c'est là que Dieu veut nous amener. Il veut nous amener à le connaître personnellement. Si on veut devenir un chrétien solide, ou si on veut demeurer un chrétien solide, notre première vocation, le premier appel, c'est de le connaître intimement, personnellement. Verset 3, il nous dit, « Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend ou qui déclare l'avoir connu, alors qu'il ne garde pas ses commandements, est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. » Ici, on pourrait traduire menteur par « abuse de la crédulité des gens ». Il passe pour quelqu'un qui n'est pas. Mais ici, les commandements, on ne parle pas des 10 commandements ou on ne parle pas des 613 commandements que Dieu avait donnés à son peuple sous l'ancienne alliance. Il parle des commandements de la nouvelle alliance, puisque Jésus est la fin de la loi, Romains 10, 4. Ça fait référence à la loi de la liberté que Jacques nous dit dans Jacques 1, la loi de l'esprit de vie dans Romains 8, l'amour dans Romains 13 et dans 1 Corinthiens 13. Paul va résumer tout cela dans Galates 5, 14. Galates 5, 14, il dit, « En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est là que Dieu veut nous amener. Et lorsqu'il nous amène là, ça démontre une chose, c'est qu'on est solide. Si je prétends, si j'affirme, si je déclare le connaître et je ne suis pas guidé par les commandements de la nouvelle alliance, qui ne sont pas pénibles, comme il dit plus loin au chapitre 5, bien, je ne suis pas dans la lumière. Si je suis dans la lumière, ce que Dieu dit des choses va éclairer ma voie, va éclairer mon chemin. Et de garder ses commandements, il y a une chose qu'il faut mettre au clair. Ici, ce n'est pas un appel à performer. Ici, ce n'est pas un appel à devenir meilleur. Ici, ce n'est pas un appel à, par ses propres forces, arriver à produire ce que Dieu demande. Ici, c'est un appel à connaître Dieu pour que par lui, je puisse marcher dans ses voies. Je ne peux pas marcher dans ses voies par mes propres forces, sinon la gloire doit me revenir. Sinon, je n'ai pas besoin de Dieu. Mais quand Dieu m'éclaire puis il me dit « c'est là que je veux t'amener », puis je découvre mon incapacité, c'est là que je réalise combien j'ai besoin de lui puis je dépends de lui. Il n'y a pas de marche avec lui sans son accompagnement, sans son intervention, sans sa présence, sans sa grâce, sans sa miséricorde, sans son amour. C'est pour ça qu'un chrétien qui se tient debout, il garde sa parole, parce que sa parole le fortifie, sa parole le nourrit. C'est pour ça que Jean nous appelle à se maintenir dans sa parole. Il dit au verset 5, « Mais l'amour de Dieu est parfait, elle est mature, elle a atteint son but en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. » Et je ne peux pas marcher dans ses voies, marcher dans ce que sa parole dit, sans être détaché de son amour. En d'autres mots, ce que je veux dire, c'est que si je suis détaché de son amour, je ne suis pas en relation intime avec Dieu, l'amour de Dieu n'a pas atteint une maturité dans ma vie, eh bien, je ne peux pas accomplir, marcher dans les voies de Dieu, selon sa parole, conformément à ce qu'il s'attend de moi. L'apôtre Paul, il va dire dans 2 Corinthiens 5, 14, il dit, c'est l'amour de Christ qui me presse. Jude, au verset 20, 21, ou 19 à 21, il va dire qu'on est appelé à se maintenir dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est parfait en celui qui garde, qui prend soin de sa parole. Lorsque Dieu nous parle au travers de sa parole, il faut entendre la voix d'un Père qui nous aime. Et si, lorsqu'on se laisse instruire, lorsqu'on étudie la parole, lorsqu'on écoute sa parole, lorsqu'on lit sa parole, lorsqu'on médite sa parole, si ce n'est pas la voix d'un Père aimant, ce n'est pas la voix de Dieu qui nous parle. Et ça, je ne suis pas en train de dire que Dieu, parce qu'il nous aime, va nous laisser faire tout ce qu'on veut. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que quand ça va être le temps de nous corriger, quand ça va être le temps de nous discipliner, quand ça va être le temps de nous ramener dans le droit chemin, il va le faire avec amour. Je me souviens, il y a un frère récemment qui est venu me voir, puis il vivait des difficultés. Puis ce n'est pas une question d'immoralité, mais il vivait une difficulté. Puis j'ai dit à ce frère, il a fait 4 heures de route aller-retour pour pouvoir me rencontrer. Puis j'ai dit, écoute, pour passer au travers de cette épreuve-là, il faut que je te parle clairement. Puis il me dit, Éric, je ne fais pas 4 heures de route pour que tu me parles, puis tu me flattes dans le sens du poil. Je veux entendre ce que je dois entendre. Il avait un cœur humble. Puis il savait que qu'est-ce que j'allais lui dire, ça allait peut-être lui faire mal, il aurait trouvé ça difficile, mais il savait que j'étais motivé par l'amour dans ma communication. C'est à ça que Dieu nous appelle, communiquer la vérité dans l'amour. Paul le dit dans 1 Corinthiens 13, « Même si j'ai la foi à renverser les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Mais cet amour-là nous vient de Dieu. Ce n'est pas notre amour qu'on a en nous-mêmes qui va faire la différence. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il n'y a pas d'amour de Dieu qui est séparé de sa parole. Si quelqu'un dit, moi j'aime Dieu, mais la théologie ou ce que Dieu dit, c'est secondaire. Ben, quelqu'un qui parle comme ça n'est pas un disciple solide. Et Jean va plus loin, il va dire au verset 6, « Celui qui affirme demeurer, séjourner, habiter en Christ doit vivre ou se conduire comme lui-même a vécu ou comme lui-même s'est conduit. » Et ce qui est intéressant, le mot « demeurer » ici, c'est ça pourrait même être traduit qu'il ne veut pas s'en aller. Tu sais, quand tu es dans un lieu, tu as du plaisir avec des gens, tu es bien, tu n'as pas le goût de t'en aller parce que tu veux rester là, là. Mais celui qui veut rester là, là, en Christ, avec Christ, mais ce que ça va produire, c'est que ça va nous amener à vivre comme lui. Ici, Jean nous parle d'être en lui. Non pas comme une condition au salut, mais comme une démonstration du salut. En d'autres mots, je ne dois pas accomplir ce que Dieu dit pour être sauvé, mais parce que je suis sauvé, puis j'entretiens une intimité avec Dieu, je me laisse éclairer par ses commandements qui sont dictés par son amour, je me garde dans sa parole qui justement m'est donnée dans une atmosphère, dans un esprit d'amour, eh bien, ça va produire en moi du fruit. De la même manière, un pommier va produire des pommes. Un chrétien qui se nourrit de l'amour de Dieu, de la parole de Dieu, qui développe une intimité avec Dieu, va manifester le caractère de Christ. Si j'ai jamais vu à quoi ça a l'air un pommier, puis je m'en vais dans un champ, puis je demande au gardien de ce champ-là, par exemple, ou le propriétaire de ce champ-là, à quoi ça ressemble un pommier, comment que c'est fait, les branches, la couleur de l'écorce. Puis il me dit, regarde, tu sais ce que ça a l'air, une pomme? Mais dès que tu vas voir un arbre avec une pomme, c'est un pommier. Et quand on regarde ma vie, quand on regarde ta vie, est-ce qu'on voit Christ dans ta vie? Est-ce qu'il est visible? Est-ce que les gens voient après, je ne sais pas moi, une année de vie chrétienne, 2 années, 5 années, 10 années, de plus en plus Jésus-Christ dans ta vie? Un disciple, lorsqu'il a la parole et lorsqu'il se met à connaître Dieu intimement, le fruit qui va naître va être le caractère de Christ. vivre comme lui-même a vécu, vivre selon la parole de Dieu avec toute sa douceur et toute sa sensibilité. Mais, comment vivre comme lui si je ne connais pas ma mission, ma raison d'être, mon objectif de vie, si je ne sais pas qui je sers, à qui je sers et à quoi je sers? Le Seigneur nous a préparé d'avance des œuvres pour qu'on les pratique. Chacun de nous, on a une mission. Dieu nous appelle à des œuvres. Puis les œuvres, ce n'est pas compliqué. Hein? Peut-être l'œuvre que Dieu te demande aujourd'hui, c'est d'être à l'écoute d'un frère ou d'une sœur, d'être juste une oreille attentive. L'œuvre, peut-être, c'est d'amener une parole de réconfort ou d'offrir un service. Ou peut-être ton frère ou ta sœur a juste besoin d'être pris dans ses bras aujourd'hui. Peut-être c'est des fois un petit cadeau qu'elle a besoin. Et l'œuvre de Dieu, c'est juste d'être là disponible, d'être à son écoute, puis d'être là pour ceux que Dieu a placés sur notre route. Et en connaissant Dieu et sa parole, je vais connaître son plan pour ma vie. Puis son plan va m'amener à aimer les frères et les gens autour de moi. C'est pour ça que Jean va commencer à introduire ce concept-là. Il dit au verset 7, « Je vous écris, mais un commandement ancien, celui que vous avez reçu depuis le début. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. » Et j'ai traduit d'une manière libre un commentaire de Wyst. Lui, c'est un exégète qui est spécialisé dans la langue grecque, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Puis, il l'a retraduit, et moi, en anglais, moi je l'ai retraduit en français. « Divinement aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu constamment depuis le début. Ce commandement ancien est la parole que vous avez entendue. » Et là, ici, ça peut être mélangeant pour le lecteur, parce qu'il parle, c'est pas un commandement ancien, c'est un commandement nouveau, mais c'est un commandement ancien. Fait que tu peux dire, attends, c'est un commandement ancien ou pas? Alors, on va le relire maintenant dans la version parole vivante. Des fois, de le lire dans d'autres traductions, ça nous aide, ça nous éclaire davantage. Mes chers amis, en vous écrivant cela, je ne vous donne pas de nouvelles directives. Il s'agit simplement de l'ancien commandement qui vous a été transmis depuis le commencement, c'est-à-dire la parole que vous avez déjà entendue. Toutefois, c'est aussi un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se vérifie en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la vraie lumière brille déjà. En d'autres mots, c'est un message qui n'a pas changé, mais qui est encore actuel, puis qui n'est pas appelé à être changé. Mais Christ s'est manifesté par une nouvelle expression, ou ce message-là s'est manifesté dans une nouvelle expression en Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est arrivé sur terre, il nous a démontré par sa vie comment vivre les commandements de Dieu. Ce commandement nouveau, c'est le message de l'amour. On le voit dans la deuxième lettre de Jean, au verset 5 et 6, qui a été incarné par Jésus-Christ, qui nous sert de modèle sous la nouvelle alliance. Mais parce que des faux enseignants se mettaient à déformer le message, il fallait que Jean, un des derniers témoins de Christ et de sa résurrection, mette les choses au clair. Et donc, on voit que ce message-là était dans l'Ancien Testament, d'aimer les autres. On le voit dans Lévitique 19, 17. « Tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur, mais tu veilleras à reprendre ton prochain. Ainsi, tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. » Et donc ça nous montre, et Jésus va reprendre ce thème-là dans Matthieu 5, puis dans Matthieu 18, en disant que si tu as quelque chose contre ton frère, ou si ton frère a quelque chose contre toi, va le voir lui seul. Et donc ça, c'est un grand geste d'amour. Parce que la tendance dans certaines églises au Québec, c'est une rumeur qui court en tout cas, je ne sais pas si elle est fondée, mais ce qu'on dit au Québec, c'est qu'il y a certains chrétiens, peut-être pas dans cette église, mais il y a certains chrétiens qui, au lieu d'aller voir le frère, vont parler contre le frère à toutes les autres, mais ils n'iront pas le voir. Mais Dieu nous demande de ne pas faire ça. d'aller voir le frère. Et ça, c'est un défi. C'est confrontant, c'est un défi. Et ça, c'est un défi qu'on peut amener à la croix en disant, « Seigneur, c'est au-delà de mes forces de faire ça. » Sous la Nouvelle Alliance, dans Matthieu 22, les versets 36 à 40, Matthieu 22, 36 à 40, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Et donc, c'est une expression nouvelle d'un commandement ancien. Et c'est pour ça qu'on reconnaît également un chrétien solide en ce qu'il aime son frère. Verset 9, « Celui qui prétend être dans la lumière, tout en détestant son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère reste dans la lumière, et il n'y a rien en lui qui puisse le faire trébucher. En revanche, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Aimer Dieu et garder sa parole va être fait dans une démarche spirituelle, dans la mesure que ça produit un amour grandissant pour nos frères et nos sœurs dans l'Assemblée. Et ce que la parole de Dieu dit, si j'ai un amour pour les frères et les sœurs dans l'Assemblée, je vais être un chrétien solide. Puis c'est pour ça que dans ce siècle qui est éprouvant, les gens autour de nous ont besoin de voir l'amour qu'on a les uns pour les autres. Parce que c'est à ceci, Jésus dit dans Jean 13, 34 et 35, à ceci qu'on va reconnaître mes disciples par l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Connaître Dieu intimement, marcher dans ses voies, garder sa parole, obéir à ses commandements, eh bien, c'est censé produire le résultat, un amour pour les frères, un désir d'être avec les frères, un besoin d'être avec les frères. Si c'est ça qui est créé dans notre cœur, on est des chrétiens et des chrétiennes solides. C'est là que je suis solide et que les ténèbres ne m'ont pas atteint. On le voit dans le psaume 15. On a un avant-goût de ça. Celui qui se tient dans la présence de Dieu, on voit au verset 1 et 2, eh bien, Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il marche dans l'intégrité, il pratique la justice, il dit ce qu'il pense vraiment, donc il n'est pas un hypocrite, il ne calomnie pas avec sa langue, donc il ne va pas parler d'une manière déformée, incomplète ou fausse sur une autre personne, il ne fera pas du mal à son semblable, il ne jettera pas le déshonneur sur son prochain, il ne regardera pas avec répugnance l'homme au comportement méprisable. Et ça, c'est un appel, mesdames et messieurs, là. Et ça, c'est un défi pour moi, d'aimer les gens que je ne considère pas aimables selon mes standards. Selon mon évaluation, il y a des gens que je considère pas aimables. Mais Dieu me demande de les aimer. Et comment je peux aimer une personne pas aimable? Bien, en me retrouvant au pied de la croix, devant Dieu, comme une personne pas aimable devant lui. Il honore ceux qui craignent l'Éternel, ou il honore les hommes et les femmes de Dieu. Ne se rétracte pas s'il a fait un serment à son préjudice. En d'autres mots, si c'est engagé, puis si c'est pour lui coûter, il va tenir sa parole, il va s'engager. Il n'exige pas d'intérêt de son argent, n'accepte pas de don contre l'innocent. Puis toute cette liste témoigne de l'amour pour mon prochain qui découle d'une vie intime avec Dieu. Et savez-vous comment le psaume se termine? Il dit, celui qui se conduit ainsi ne sera jamais ébranlé. C'est exactement ce que Jean dit. Si tu aimes ton frère, tu vas être solide. Tu ne trébucheras pas. Tu as les deux pieds sur le roc. Sous la Nouvelle Alliance, celui qui aime son frère parce qu'il connaît Dieu, qui garde ses commandements, garde sa parole, rien ne va le faire trébucher. Dans cette époque éprouvante où tout nous interpelle à vivre en dehors des voies de Dieu, j'ai besoin de revenir à ses bases pour être une source d'inspiration. En résumé, connaître Dieu intimement et bibliquement se démontre par mon amour pour sa parole et pour mes frères dans la foi. En conclusion, quel véhicule va nous propulser à aimer nos frères? Le 747. Oui, le 747. C'est ce que Jésus nous dit dans Luc 7:47. C'est pourquoi, c'est une manière pour vous de le retenir. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Plus je suis conscient que devant Dieu, mon cœur est mauvais, mon cœur est pécheur, mon cœur est éloigné de Dieu, plus j'apprécie son pardon. Si je pense que je suis pardonné de peu, de juste deux, trois petites affaires, la profondeur de ma reconnaissance est beaucoup moins grande que si je suis conscient que je suis un perpétuel offenseur de Dieu. Et moins que je prends conscience que mon cœur est mauvais, le problème, c'est que plus ça va m'amener à mépriser les autres et à me penser au-dessus des autres. Mais plus je suis conscient, parce que je suis dans la lumière, que je suis un pécheur et que mon cœur est mauvais, ça me donne... Puis que j'arrive devant Dieu en disant, je ne suis pas celui que je voudrais être. Je ne suis pas celui que je voudrais que les gens... Comment je pourrais dire ça? Je voudrais paraître bien mieux que ça devant les gens. Puis devant toi. Et je reconnais que tout ce que tu m'accordes, c'est par peu grâce parce que mon cœur est mauvais devant toi. Mais est-ce que ça produit... Lorsque Dieu, justement, nous fait grâce, lorsque Dieu nous accorde des faveurs, des cadeaux qu'on ne mérite pas, ça produit une reconnaissance et ça fait en sorte que notre amour pour ceux qui sont à nos yeux qu'on puisse terminer ce temps-là devant Dieu.